Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, merci Léana, bienvenue dans une semaine formidable. Autour de la table ce soir avec moi, Pierre Forest, Eric Figuère et Bruno Salvé. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation pour parler, bien évidemment ce soir, de rugby. On parlera aussi de football, un petit mot de tennis et un clin d'œil aussi. Un Français qui a performé en marathon, ça me fera plaisir de parler de lui, on viendra en fin d'émission. Mais on va bien évidemment commencer cette semaine formidable par du rugby avec une nouvelle journée de top 14, la 11e, qui s'est terminée ce matin par une large victoire du Stade Rochelet sur le Racing 92. Bruno Salvé, je me tourne vers vous pour parler de ce match et ce retour aussi, un joueur qui a performé sur cette victoire. On l'a dit hors émission, on va encore parler de lui, bien évidemment. On va parler de plusieurs joueurs, mais ce joueur du Stade Rochelet qui était de retour et qui a performé.
Grégory Aldrit,
bien évidemment.
Bien sûr. Oui, oui. Après, on en parlait justement la semaine dernière de cette équipe de La Rochelle qui enchaîne une victoire, encore une victoire. Donc, c'est bon signe pour ce club et qui, grâce à cette victoire, se retrouve à la 6e place du championnat.
Mais avec un match en retard.
Avec un match en retard en plus, ouais. Donc, selon le. Avec 24 points, le Toulouse est premier à 29 points, c'est-à-dire qu'une victoire bonifiée, elle remonterait à hauteur du Stade Toulousain en tête du classement du top 14. Donc, c'est vrai que ça a été une belle prestation de cette équipe de La Rochelle face à une équipe du Racing vraiment décevante parce que ça fait le deuxième match que le Racing n'arrive même pas à marquer un essai. On était sorti de justesse la semaine dernière en accueillant en Pau sur le terrain de Créteil, là, puisqu'il joue à Créteil, l'aréna est en prise pour un autre événement. Mais c'est vrai que cette équipe de Racing est décevante, alors qu'elle a quand même un effectif très riche. Donc
Oui, 6 points seulement face au Stade Rochelet. Oui. Pierre Forest, 6 points dans une rencontre comme ça pour espérer aller plus haut.
La Rochelle revient bien. La Rochelle, je crois qu'ils enchaînent sur la trois victoires consécutives, dont deux à l'extérieur. Et bon, avec un effectif, on le sait, qui fournit aussi également l'équipe de France. Hein. Donc ce match en retard dont on parle et qui risque d'être décisif, mais c'est un déplacement à Toulon, parce que ce match, c'était, je crois, il me semble, la 7e journée. Troisième journée avec les pluies torrentielles à Mayol. Et donc ce match-là, il est acquis tout double, que ce soit pour Toulon qui reçoit ou pour La Rochelle qui se déplace. Et La Rochelle est très bon à l'extérieur. C'est un match à 5 points. Et 5 points, ça nous amène à la tête du classement général ou en deuxième avec Toulouse ou entre Toulouse et Bordeaux.
On va en parler de ce classement qui est dominé par le Stade Toulousain devant la section paloise. Stade Toulousain 29 points, Pau 28, Bordeaux Bègles UBB 27, l'Aviron Bayonnais 26, le Stade Français et le Stade Rochelet 25, Toulon 24. C'est quand même assez serré encore une fois. Eric Figuère, on le voit, après 11 journées, on a quand même de nombreuses équipes qui se tiennent à quelques points. Une victoire peut tout changer.
On en a parlé déjà les semaines précédentes, puisqu'on était déjà ici. voilà. Et effectivement, la semaine dernière déjà, c'est très serré. On voit bien que il n'y a pas de gap pour l'instant avec les équipes de tête. Ils se suivent à chaque fois quasiment un point. On voit qu'il n'y a pas de marge. Et puis par contre, on voit évidemment qu'il y a un très gros gap par contre avec les deux équipes de fond de classement qui sont vouées malheureusement pour elles à se battre pour savoir qui sera barragiste. Voilà, puisqu'on parle beaucoup effectivement de la tête, mais on avait été sympa, on avait parlé de l'USAP la semaine dernière et qui a marqué son premier point cette semaine.
Donc, bonus défensif.
Voilà, il faut le signaler. En tant que supporter de l'USAP,
voilà,
ils le méritent en plus.
Ils le méritent, ils ont fait un beau match. Voilà, mais comme vous disiez, chaque semaine, il va y avoir une équipe qui n'avait pas trop performé la semaine d'avant, qui va réussir un gros match. On voit que le Racing, effectivement, a un petit peu de difficultés et son classement le montre. Mais il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de points d'écart avec la tête. Donc ça va énormément, pas tellement bouger dans le sens montée-descente, mais je pense que ça va rester très serré jusqu'au bout.
Alors on parlera du bas du classement après, hein. On parle bien évidemment de l'USAP et de Montauban qui vont se jouer les deux dernières places. Il y a d'autres clubs qui sont entre deux eaux, Montpellier, Lyon notamment, qui sont sur de mauvaises séries. Parlons plutôt du haut du classement pour le moment. On en a parlé, donc le Stade Toulousain qui est en tête avec cette nouvelle victoire, une deuxième consécutive. Victoire 29-17 dans le classique de ce top 14. Pierre Forest, retour sur cette victoire du Stade Toulousain sur le Stade Français.
Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mené à la mi-temps.
Qui était, oui, exactement.
C'était un match intéressant puisque le Stade Toulousain recevait le Stade Français qui était en tête de ce championnat et qui est très très bon à l'extérieur. Donc le Stade Toulousain, fort de ses... avec de ces Argentins qui sont revenus, enfin des joueurs étrangers, malheureusement, avec les joueurs dits protégés par l'équipe de France, qui n'ont pas pu jouer. Je crois qu'ils étaient neuf à ne pas être libérés, mais pas pouvoir jouer, puisqu'il y a le match international le week-end prochain. Donc, a quand même puisé dans ses effectifs. Et on sait que l'effectif du Stade Toulousain, c'est un niveau très relevé sur les trois équipes. Bon, ils ont eu du mal en premier temps, puisqu'ils étaient menés. Comme
10 à 3 à la pause.
Voilà. Et puis, sur la fin, ben, on a vu qu'ils ont réussi à mettre en place le jeu qu'ils avaient produit, mais qui était loin d'être efficace. Et puis, ben, qui leur a permis de déborder
beaucoup de balles ont perdu.
C'est ça, une équipe qui doute aussi, puisqu'on le voit à la fin des rencontres, le coach qui rassemble ses joueurs sur le terrain, qui leur parle. On sent qu'il y a un petit doute quand même.
Ils sont quand même très bons à domicile, puisque c'est la meilleure équipe à domicile. Ils sont moins bons à l'extérieur, on l'a vu. Mais à domicile, je crois qu'ils auront 24 points. Sur les 24 points, sur les 5 matchs, il y a 4 bonus. Et un, justement, contre le Stade Français, ils n'ont pas pu avoir le bonus sur la fin.
Le Stade Français, ouais, les a privés du bonus offensif en marquant un bel essai en fin de match.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est, comme vous le disiez, il y a eu un roulement nécessaire. Quand même, si vous enlevez 8 titulaires ou 9 titulaires qui sont en Marcoussis, une équipe de rugby, c'est 15 joueurs, et vous avez plus de la moitié de l'équipe qui est absente. Donc c'est vrai que ça... Hugo Mola était obligé de faire rentrer des jeunes. Et puis je pense que le nombre de ballons tombés, d'erreurs aussi, de placement, était dû aussi au fait que les joueurs ne sont pas forcément habitués à évoluer tous ensemble à ce niveau-là. Enfin, c'est une équipe parisienne qui a fait un excellent début de saison. Il ne faut pas enlever la performance des Parisiens, hein, qui ont vraiment un début de saison canon cette année. Donc voilà, c'est une belle, bonne prestation, un match, ma foi, assez agréable. Après, j'aimerais revenir aussi sur puisqu'on parle du haut du classement, sur la victoire de Bordeaux, qui est allé s'imposer à Castres. C'est jamais facile d'aller s'imposer à Pierre Fabre à Castres.
Et de justesse,
ouais. 28-26. Donc c'est vraiment, voilà, donc Bordeaux... Après quelques matchs un peu poussifs, trouve aussi sa vitesse de croisière, privé aussi de ses internationaux. Donc c'est de bon augure pour la tête du classement et pour le niveau du championnat.
Et quand on regarde le classement, on s'aperçoit que on parlait des écarts très faibles entre les différentes équipes, en tous les cas les 9 premières, et on se rend compte que ces 9 premières équipes ont gagné 6 ou 5 matchs de leurs 9 joués, et donc en ont perdu 3 ou 4 effectivement de ces matchs-là. Donc ça montre bien que oui, ça ne gagne pas énormément cette année, et que c'est très redistribué dans les victoires ici ou là, et notamment en recevant.
C'est très difficile d'enchaîner. On le voit sur les derniers résultats. C'est voilà, et à part le Stade Toulousain qui enchaîne 2 victoires, l'UBB 3 et le Stade Rochelet 3, derrière c'est voilà une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Mais c'est ce qui fait que le championnat est aussi serré cette année.
C'est très difficile de gagner à l'extérieur surtout, même pour toutes les équipes. Hein, c'est vraiment des bastions à attaquer, mais les bastions ils sont imprenables à domicile. C'est un petit peu ce qui ressort de cette première phase de match du top 14.
Après c'est aussi peut-être le choix aussi des coachs. Hein, la saison est longue, est très très longue, donc c'est vrai qu'il faut peut-être privilégier des victoires à la maison et peut-être faire l'impasse sur certains matchs et laisser reposer les organismes.
Il faudra bien se qualifier dans les 6 premiers quand même.
Complètement, oui, on est d'accord.
S'ils veulent faire quelque chose de leur saison, parce que c'est là l'objectif pour au moins une bonne dizaine des 14 équipes. Ouais. Donc à trop y réfléchir... Ça va peut-être coûter cher à certaines équipes.
Oui, mais bon, quand on regarde les diffusions à la télé, souvent il y a l'infirmerie qui est affichée en bas,
exact.
Et on voit qu'il y a énormément de joueurs.
Les infirmeries sont remplies, effectivement.
Et on est à la 3e semaine du top 14.
La Coupe d'Europe n'a pas encore commencé.
Voilà.
Et les tests matchs internationaux non plus.
Non plus. Et le top 14, je vous rappelle, c'est quand même 26 journées.
On est à la neuvième. J'ai dit 11 tout à l'heure, je me suis trompé, c'était 9.
Sans compter les blessés de l'année dernière qui n'ont toujours pas repris.
Comme un certain Antoine Dupont, on y vient
Dupont,
du coup, puisqu'on voulait en parler.
Movaca également, donc ils n'ont toujours pas repris.
Parce qu'Antoine Dupont, en étant blessé, a quand même signé, on va en parler, c'est le joueur, le meilleur joueur de
la mi-temps. C'était l'événement à la mi-temps, puisque le Stade Toulousain a fait ça en grande pompe, voilà, avec la signature officielle sur le terrain d'un contrat jusqu'en 2031.
2031 pour le meilleur joueur du monde qui va rester au Stade 14, qui va rester au Stade Toulousain. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour, alors déjà pour le Stade Toulousain, j'imagine que oui, mais pour le rugby français, pour le championnat? D'avoir ce joueur-là encore pendant 6 ans, 7 ans à suivre.
Je suis tenté de dire que pour le rugby français, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il reste dans le top 14, dans le championnat français. C'est aussi une bonne chose pour des coéquipiers qui hésitaient, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en fin de contrat aussi à Toulouse, qui hésitaient pour faire une dernière pige de 3-4 ans avec beaucoup d'argent dans le contrat. Donc c'est pour eux l'assurance qu'ils ont encore le meilleur joueur du monde, le capitaine de l'équipe de France, qui jouera encore à Toulouse. Donc ça permet peut-être d'encourager et envisager évidemment des titres, ou voir des sélections d'équipe de France. Pour l'équipe de France, c'est aussi une bonne chose. N'oublions pas que l'équipe de France est la seule grande nation du rugby mondial à ne toujours pas avoir gagné une seule fois le trophée Web Ellis. Et avec un joueur comme Dupont, on a loupé peut-être la première match il y a deux ans à Paris. Mais la prochaine, faut espérer que la prochaine, que ça soit la bonne. Parce que tous ces jeunes-là qui étaient un petit peu trop jeunes à la Coupe du Monde à Paris il y a 2 ans.
Ont désormais l'âge et la maturité pour aller chercher la maturité, trophée tous ensemble.
Je pense à Intamac, je pense à évidemment
Ramos.
Voilà, Ramos, etc. Donc c'est maintenant ou jamais de pouvoir envisager, mais avec Dupont, oui.
Éric Figuère, vous partagez cet avis?
C'est enfoncer des portes ouvertes, comme dit l'expression, que de constater que c'est très important qu'il reste dans le championnat de France. Alors pour Toulouse, évidemment, comme l'a dit Pierre, c'est une évidence, mais c'est une évidence pour tout le rugby, pour les amoureux de ce sport. Et puis on a vu quel impact il a eu aux Jeux Olympiques, alors évidemment que l'équipe tout entière, le staff tout entier a remporté cette médaille d'or aux Jeux Olympiques à 7. Mais il est bien évident, et c'est facile de l'analyser comme ça, que sans Dupont, il est très probable que les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Donc il a un impact véritable. On le voit d'ailleurs lorsqu'il fait sa petite annonce sur le terrain. On voit avec quel, et pas seulement dans le jeu, même si ça fait maintenant quelques mois qu'on ne l'a pas vu jouer, mais on le voit avec quelle facilité il s'exprime, avec quelle facilité il fait passer ses messages. Et je pense que ça aussi, c'est signe d'un vrai meneur, d'un immense joueur, même s'il est encore jeune. Et il est évident que sans lui, les choses seront différentes pour la Coupe du Monde. Mais avec lui, pour le coup, on a de vraies chances.
Bruno Salvé.
Oui, que ce soit pour le Stade Toulousain, pour l'équipe de France, c'est toujours très important d'avoir un joueur de ce calibre, ne serait-ce que pour le capital confiance de l'équipe, qui de plus est capitaine de l'équipe de France et du Stade Toulousain. Donc c'est vraiment, comme disait Eric, c'est un leader de jeu, un leader charismatique, et surtout, voilà, il tire vraiment tous les joueurs vers le haut. Donc c'est vraiment un atout pour le Stade Toulousain et pour l'équipe de France.
C'est absolument important, parce que ces joueurs-là rendent vraiment meilleurs leurs partenaires. Et donc c'est grâce à ça, effectivement. Et des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup.
Alors dans un effectif comme celui du Stade Toulousain, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent au même poste qu'Antoine Dupont. Pour cela, est-ce qu'il y a la question de on reste, on part, il va revenir, est-ce que je vais avoir ma place ou pas ? Pierre Forest.
Au sein du Stade Toulousain, déjà, et je pense que les jeunes qui vont monter de Carabos à Senior, il faut déjà qu'ils calculent, avec la prolongation d'Antoine Dupont. Donc s'ils veulent trouver du temps de jeu, il va falloir quand même aussi partir, parce que je pense qu'ils misent sur 3 demi-mêlées. Enfin, les postes sont triplés. Donc il y a le tournoi, il y a l'équipe de France, il y a les tournées, il y a les blessures. Donc, mais celui qui est 4e demi-mêlée ou 5e, etc., il vaut mieux peut-être envisager d'aller jouer en pro D2, pourquoi pas, pour faire du temps de jeu. Donc, et puis pour l'équipe de France lui-même, là, ça veut dire qu'il signe encore pour 4 ans, 5 ans, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde et au-delà, avec la titularisation. Donc quand on voit derrière, il y a le Garek, il faut qu'on en parle aussi. C'est peut-être lui qui va être titularisé quand on l'Afrique des Jeunes. C'est un jeune, il est plein de talent. Il a fait une très bonne tournée en Nouvelle-Zélande pendant l'été. Et là, il a changé de club. Il était au Racing et maintenant, il se plaît à La Rochelle, depuis un an. Il arrive à fédérer autour de tout le monde, ce qui n'est pas évident. La Rochelle est double championne d'Europe. Et d'emblée, il a pris ses marques. Et maintenant, tout le monde l'écoute, etc. C'est devenu un leader. Voilà, il fait penser un petit peu à Dupont il y a quelques années. Maintenant, est-ce qu'il progressera à la vitesse pour aussi égaler, voire dépasser Dupont? C'est une autre chose.
La réponse dès les prochaines semaines, les prochains week-ends, puisqu'on a parlé du top 14, mais il y a aussi le retour, bien évidemment, des Coupes d'Europe début décembre. Et avant ça, les test matchs, les matchs internationaux, avec des rencontres du plus haut niveau hein, pour l'équipe de France. Ça va être de très, très belles rencontres.
D'automne, oui. Après, le programme le plus chargé, ça reste quand même pour les Blacks, puisqu'eux, ils jouent quand même toutes les nations britanniques. Ils ont commencé ce week-end par les Irlandais. Ensuite, ils vont enchaîner avec l'Écosse,
l'Angleterre,
et le Pays de Galles à la fin. Donc voilà. Donc l'objectif des Néo-Zélandais étant de faire un grand chelem et de remporter les quatre matchs.
Alors que les Bleus vont affronter l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie.
L'Australie, c'est ça.
Oui. Fidji à Bordeaux et l'Australie au retour au Stade de France.
Parlons de ce premier match, ce sera le week-end prochain face à l'Afrique du Sud.
C'est vraiment le match, je pense que personne ne veut jouer en dehors de... c'est quand même les doubles champions du monde hein, d'affilée. Et quand on voit avec quelle énergie et quelle puissance physique ils ont concassé pendant le championship, ils ont concassé au deuxième test les Blacks. C'est ouf, ça va faire mal. Hein, puis...
C'est une équipe qui a toujours cette rugosité, toujours son pack, qui est vraiment la culture sud-africaine hein, d'avoir des gros packs très puissants. Mais on en parlait déjà la semaine dernière et qui a en plus maintenant des joueurs très talentueux et qui n'hésitent pas à envoyer du jeu derrière, à déplacer le ballon et à utiliser les espaces latéraux et donc du jeu déployé pour transpercer les défenses. Quoi.
Ce sera dimanche matin pour nous, 7h10, ici en Nouvelle-Calédonie.
Ces eaux-là, oui, ça doit être ça.
Ils n'ont pas de faiblesse, hein. Ils n'ont aucune faiblesse, les Sudaf. Hein.
Ouais,
ils sont disciplinés, ils ont tout, fort devant, rapide derrière. Ils ont du liant, ils sont là tout le temps. Et...
C'est costaud. C'est du costaud.
Et puis les Bleus doivent aussi se relever après ces trois défaites face à la Nouvelle-Zélande lors de la dernière tournée. On en avait parlé longuement. C'était des test-match avec beaucoup de changements aussi dans les effectifs, mais... Ça reste quand même une défaite. Il faut se relever après ça et puis enchaîner face au double champion du monde en titre. C'est pas rien.
Il y a surtout le traumatisme de la dernière Coupe du Monde. Hein.
Aussi.
On avait perdu d'un point ce quart de finale.
29-28.
Donc, c'est ce traumatisme-là qui a donc enlevé tout espoir pour une fois de gagner à domicile. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est la liste des ce qu'on appelle les 23 protégés du week-end de week-end dernier. Quand on regarde la première ligne, on en discutait tout à l'heure avec Aldi Guéry comme pilier et Jean-Baptiste Gros de Toulon comme deux piliers d'expérience, ça me semble un petit peu, on va dire...
Léger.
Très léger vis-à-vis des Sud-Africains, quand on sait que le pack de Sud-Africains, c'est vraiment un gros pack. Autant en deuxième ligne, il y a quand même du répondant, et en troisième ligne. La tournée, vous faisiez référence à la tournée en Nouvelle-Zélande, ça a permis quand même de dégager certains joueurs, et je pense notamment à Michael
Guillard
en numéro 8, hein, qui a supplanté, qui a supplanté actuellement Aldrit. Qui est le numéro 8, qui était le capitaine en l'absence de Dupont et capitaine de La Rochelle, qui a été remis à disposition de son club et qui a joué ce matin, je crois, et qui a très bien joué. Donc, sur les protégés, pour le moment, on ne sait pas si l'équipe va être faite à partir des 23 ou on va faire revenir encore d'autres, parce que ça me semble, en tous les cas, ça me semble léger, surtout en première ligne.
Après, en première ligne, c'est pas nouveau. Hein. La première ligne sud-africaine sont entre guillemets des ogres. Hein. Ce sont des joueurs très très physiques. Et c'est vrai que on parlait de la tournée de juillet, mais il y a des joueurs comme Montagne, Erdocchio, qui était des joueurs qu'on ne connaissait pas et que Galtier a testé lors de cette tournée, cette fameuse tournée en Nouvelle-Zélande. Même s'il y a eu 3 défaites, il y a eu quand même des bonnes choses et ces joueurs-là ont été protégés parce qu'ils ont réussi quand même à gagner leur place. Voilà, donc on risque d'avoir peut-être des surprises au niveau de la composition de cette équipe, notamment en première ligne, avec au signalé aussi un retour de Rodrigo Netti qui est rappelé après pas mal d'années, donc il fait une très très belle saison. Ça fait plusieurs saisons qu'il est au top niveau au niveau du Stade Toulousain, donc et qui a été rappelé aussi à Marcoussi pour préparer ce match. Donc on espère peut-être le voir porter la tunique bleue contre les Sudaf aussi.
Les Sudaf, rencontre qui se jouera donc à Paris.
Oui, Stade et de France.
Avant d'enchaîner, on l'a dit, on le redit, ce sera face aux Fidji tout d'abord.
Oui.
Puis le dernier des 3 tests de match, ouais, face à l'Australie. L'Australie qui est
décevante face aux Anglais.
Ouais. J'osais pas dire le mot décevant, mais si, ils le sont.
Oui, alors ce que moi j'ai regardé les deux matchs, j'ai regardé l'Australie contre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, l'Irlande, Nouvelle-Zélande. Ce que j'ai trouvé, c'est que sur ces deux matchs, il y a vraiment énormément de jeu au pied qui a été utilisé, donc du jeu au pied de récupération, ce qu'on appelle des up and under. On tape très haut et on envoie des joueurs en dessous. Donc c'est vrai que c'est un rugby qui est pas très plaisant parce qu'on aimerait mieux voir un peu plus de rugby de mouvement. Et là, c'est vrai que les Australiens, pourtant c'est leur spécialité, ont été en difficulté par rapport aux Anglais. Les Anglais nous ont habitués à ce type de jeu et les Australiens ont joué énormément devant la défense sans réussir à trop la franchir. Et donc c'est vrai que c'est une équipe d'Australie en demi-teinte, mais en pleine reconstruction aussi, avec de nouveaux joueurs, un nouvel ouvreur. Ils testent énormément de joueurs, donc parce que bien sûr ils accueillent la Coupe du Monde en 2027.
Évidemment, c'est comme pour le 15 de France, on le dit, voilà, des nouveaux joueurs, des essais, parce que c'est l'échéance à venir, c'est celle-là. Il y a tous les tests match qui vont préparer cette échéance. Et l'Australie est en quête aussi d'une Coupe du Monde depuis déjà quelques temps.
Absolument. L'Australie qui a gagné quand même 2 fois le trophée, hein, donc c'est.
Mais c'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que oui, on est un peu déçu par cette équipe d'Australie, mais bon.
Déjà une semaine avant, ils avaient sur leur périple, ils s'étaient arrêtés au Japon.
Oui.
Le match amical contre les Japonais ne m'avait pas plus impressionné que ça. Ils étaient même brouillants. On a trouvé que c'est une équipe qui était certes dominée évidemment contre le Japon, qui est beaucoup plus faible, mais c'était pas aussi conquérant que ça. Donc,
oui, c'était un score. On aurait pu s'attendre à un score.
Et sur le Championship, d'ailleurs, ils ont très bien débuté le Championship, oui, hein, avec cette paire de centres là, qui était toute nouvelle, etc. Puis ils avaient un jeu agréable à regarder. Et puis sur la fin, malheureusement,
ils avaient battu quand même l'Afrique du Sud sur la première rencontre.
Un petit peu sur la fin. Donc,
on parle des Australiens qui avaient battu les Sud-Africains lors de la première rencontre avant de sombrer et de s'incliner notamment face à l'Argentine. Double défaite face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, en reconstruction, aussi l'Australie qui se relance.
Smith, l'entraîneur black des Australiens, qui prépare cette échéance importante pour le rugby australien. Je pense qu'il est en train de faire des essais, beaucoup d'essais. Le poste de demi d'ouverture, et c'est un coup le fils à Lainac, je crois, un coup c'est quelqu'un d'autre.
Ouais, ouais.
Il tourne et je pense que il prépare. Je pense les tournées, en fait, les tournées, ils servent à quoi? Ils servent juste à essayer d'autres joueurs, comme l'équipe de France l'a fait en Nouvelle-Zélande.
En Nouvelle-Zélande, exactement.
Avec tous les joueurs fatigués, les joueurs titulaires fatigués. Et là, pareil pour l'hémisphère sud, ils vont aussi tester d'autres joueurs.
Mais on suivra ça avec intérêt les week-ends qui arrivent. On va marquer une pause dans cette émission, une semaine formidable. On se retrouve dans quelques minutes pour parler cette fois football. À tout de suite.
RRB, la pub.
C'est la fête chez Auchan Quefferry et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnottage et de prix promo tout le mois. Auchan Quefferry et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, 16h, 19h, le tout info.
17h30, on retrouve tout de suite la suite de votre semaine Sportmédable avec Léo Fichou et ses invités.
Une semaine Sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur le plateau d'une semaine Sportmédable. À mes côtés, Pierre Forest, Eric Figuer et Bruno Salvé, toujours présents pour parler football. Cette fois, on a pas mal parlé de rugby juste avant.
Chose sérieuse.
Chacun son sport, chacun son plaisir. Après le rugby, le football et la Ligue 1, c'était donc la 11e journée ce week-end avec, pour clôturer cette journée, une rencontre, on s'attendait à mieux, de l'Olympique Lyonnais qui a fait seulement 0-0 sur la pelouse de Brest. Les Lyonnais qui ont dominé, réduit à 10, qui n'ont pas réussi à faire mieux et qui malheureusement se retrouvent 6e, qui auraient pu espérer être un peu plus haut dans le classement, Eric Figuer.
Je crois qu'on attend un tout petit peu trop de Lyon, qui par ses bons résultats de ce début de saison, effectivement, a laissé imaginer et entreapercevoir qu'une saison pouvait être très intéressante pour ce club. Je pense qu'on s'est un petit peu trop emballé et qu'ils n'ont pas ni la structure actuellement, ni le banc, ni les effectifs, pardon, pour briller plus que ça, et on le voit dans beaucoup de matchs effectivement qu'ils produisent, sauf peut-être en Coupe d'Europe, mais on voit que c'est poussif, et ce résultat est tout sauf une surprise. Alors bien sûr qu'on aimerait voir Lyon comme d'autres clubs un petit peu plus haut et surtout un petit peu plus performant, mais c'est pas vraiment une surprise en réalité, quoi. Voilà, c'est pas ça va être difficile malgré tout cette année, même si pour l'instant ça se passe plutôt en termes de résultats pas trop mal, mais il faut pas s'attendre non plus à des miracles de la part de l'OL.
Et si Lyon n'est pas plus haut, c'est aussi parce qu'il y a d'autres clubs qui brillent en ce début de saison, qui brillent, qui performent.
Voilà. Tu fais bien de te reprendre, effectivement, parce que c'est exactement ça. Et on le voit d'ailleurs avec le leader qui est Paris. Hein,
qui ne brille pas.
Voilà, qui ne brille pas, mais qui fait le job. Ce n'est pas la première année que Paris gagne petitement beaucoup de ses matchs. Ça lui est arrivé quelques fois. Et puis à l'arrivée, il était là, bien évidemment, avec souvent une avance assez conséquente. Voilà. Encore une fois, tous les joueurs ne sont pas tout à fait là. Certains sont revenus de blessure, mais ne re-rentrent pas encore, ne sont pas encore titulaires. Et ça se voit. Et puis, on imagine facilement et aisément, même si pour le coup, ils auraient pu encore faire un match nul, puisqu'ils ont marqué à la toute fin du match et réussi à remporter ces 3 points. Mais on voit bien que la priorité cette année, c'est de se mettre à l'abri en Champions League, où là, véritablement, on voit que le niveau de jeu est tout autre.
Avec un gros duel qui attend les Parisiens face au Bayern.
Avec un très gros duel, ça va être très intéressant mercredi matin contre le Bayern. Tout le monde attend un petit peu ce match puisque tout le monde dit que le Bayern aujourd'hui est la seule équipe à pouvoir rivaliser en Europe avec Paris. Ça semble être plutôt le cas, alors on va voir. Ça ne sera pas déterminant pour la suite de la compétition et pour le titre final, bien évidemment, mais ce sera assez intéressant.
C'est tout de même le premier contre le deuxième après 3
journées. Voilà, et puis c'est vraiment les deux équipes qui sont les plus et performantes et brillante. Pour le coup, on parlait du championnat où les équipes ne sont pas brillantes mais arrivent à performer et à engranger les points, et on voit là aussi qu'en Ligue 1 le classement est assez resserré, donc c'est intéressant, mais les victoires cette semaine ont été assez poussives. Marseille a quand même réussi à aller glaner les 3 points à Auxerre, c'est quand même plutôt...
Un but à 0, voilà. Même score pour le Paris Saint-Germain face à Nice. Hein.
Voilà, défaite surprise de Monaco.
Pierre Forest, on vous voit...
Oui, parce que... Non, mais je suis un fan de l'Olympique de Marseille, mais on le voit depuis le début de saison, autant il performe à domicile, hein, au Vélodrome, mais autant à l'extérieur, il gagne, voire il perd. Mais là, ils ont gagné petitement contre Auxerre, et en plus, c'est devenu une habitude à l'extérieur, je crois qu'ils ont à chaque fois un expulsé. Donc
Auxerre bon dernier.
C'est pas très très bon pour espérer aller chatouiller le Paris Saint-Germain.
Après, ils se cherchent.
Apparemment,
le système de jeu change.
Mais l'Olympique de Marseille, on a l'impression que chaque année c'est pareil. Il y a quelques victoires, puis il suffit d'une défaite pour tout casser, qui est des tensions qui naissent.
Oh, il semblerait quand même que ce soit un peu plus stable cette année quand même.
Mais on espère que le match de Coupe d'Europe à domicile contre
Bergame,
ça va, pour le coup,
le résultat pourrait avoir son importance pour la suite de la saison.
Mais là, depuis le début, à l'extérieur, contre des équipes dites faible du championnat.
Oui, mais tous les systèmes qu'essaye de mettre en place de Zerbi sont évolutifs. Quasiment chaque journée de championnat, ça change. Donc, on peut comprendre aussi peut-être que les joueurs aient eu un petit peu de mal à s'adapter.
Voilà, on va voir. Je pense que Bergame, on vient de le dire, sera un test important.
On a parlé donc de l'Olympique Lyonnais, de Marseille, du Paris Saint-Germain. Et puis c'est Lens qui est sur la troisième marche du podium. Les Lensois qui ont largement dominé Lorient. Bon, Lorient qui est quand même pas oui, en grande forme depuis le début de la saison.
C'est plus mais une surprise. C'est plus une surprise. Lens, j'en parle à chaque fois d'ailleurs, et je parle des entraîneurs ou des managers en fonction des disciplines. Mais encore une fois, Lens avec Sage, l'ancien Lyonnais, là pour le coup, au contraire de Lyon, où je pense que les résultats sont un peu en trompe-l'œil, Lens pour le coup, c'est pas du tout en trompe-l'œil, ça joue bien. Et ça gagne beaucoup et ça gagne bien. Voilà. Donc ils sont très bien placés. Lille aussi arrive à suivre pour l'instant le mouvement.
Ils sont sagement installés à la première place.
Exactement. Ils sont sagement
Est-ce qu'ils
installés.
Ne surperforment pas les Lensois en ce début
je
de saison
pas, Je ne pense pas. Non, je pense qu'il y a vraiment, quelque chose dans ce club depuis que Sage est arrivé et ça joue bien. Et je pense que non, ils vont continuer et ils ont en plus de l'ambition. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien aussi les clubs qui s'affichent, voilà, plutôt que de se planquer derrière. Non, mais bon, voilà, on va essayer de faire le mieux possible, etc., etc. Non, quand on est un sportif, alors il ne faut pas... Alors j'ai une expression, mais je ne vais pas la citer à la radio, mais il ne faut pas voir plus loin que le bout de son nez. Voilà, ouais, c'était une autre expression, ça, oui. Elle est mieux comme ça. mais il faut quand même, malgré tout, avoir de l'ambition. Quel sportif veut obtenir des résultats sans avoir de l'ambition? Alors on peut avoir de l'ambition en interne et ne pas trop l'afficher, c'est vrai. Mais il faut aussi faire passer des messages quand on a un groupe étoffé comme ça, quand on a un public très fort, le public lensois qui est reconnu. Donc il faut faire passer des messages et c'est bien qu'ils le disent.
Lens, Lille, 3e, 4e, puis il y a une équipe, vous le disiez, qui a des ambitions chaque année et qui à chaque fois, on a l'impression qu'il piétine. Monaco, qui est tout de même là, à la 5e place, mais... On n'arrive jamais à suivre.
Monaco restera Monaco, bien sûr, fera très souvent de bonnes saisons, mais voilà, la Principauté est un endroit à part. Avec, pour le coup, on parlait du public lensois, le public monégasque. Pour le coup, le public monégasque, ceux qui viennent en tous les cas au stade, sont très respectables, mais ils sont peu nombreux. Et c'est toute cette ambiance de cet endroit extraordinaire qui fait que c'est souvent compliqué de performer sur la durée. Alors malgré tout, le club est un club riche, a les moyens de garder ses joueurs, a les moyens d'en recruter. Donc ils sont toujours là, mais c'est compliqué. Et puis les jeunes joueurs qui aujourd'hui commencent à être performants, comme Akliouche ou comme d'autres,
sont
encore un tout petit peu jeune encore, voilà, manque un peu de constance. Ce sera sans doute différent l'année prochaine et pour eux certainement l'année prochaine dans d'autres clubs.
Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. S'ils restent.
Monaco a vraiment un souci pour conserver ses joueurs aussi, quoi.
Alors ils savent le faire quand ils le veulent.
Oui.
Mais effectivement, c'est aujourd'hui une méthode. Hein,
Après,
voilà,
quand on vend. Quand tu es joueur de haut niveau, dans l'absolu, c'est de jouer devant un stade plein avec un public et qui te porte, quoi. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas jouer à Lens.
Les avantages fiscaux ne suffisent pas.
C'est ça. Tu vas jouer à Lens dans un stade. C'est Bollard, c'est ça.
Oui, Bollard. La ferveur, bien sûr.
Avec les courants, le chaudron, voilà. À Saint-Etienne ou au Vélodrome ou au Parc des Princes.
D'ailleurs, on parle souvent de l'OM, bien sûr, parce que c'est le meilleur public de France, c'est le plus beau stade, c'est la meilleure équipe. Mais on parle de Lens, on parle de Lille, on parle de Saint-Etienne, bien sûr, en deuxième division. Mais beaucoup des publics français sont assez extraordinaires et les stades sont aujourd'hui, si ce n'est plein, en tous les cas bien fournis, sauf à Monaco. Oui. Voilà, ça restera et toujours.
Qui plus est, je pense qu'ils changent souvent d'entraîneur, en plus des entraîneurs étrangers.
Il n'y a aucune stabilité dans le staff.
C'est pas très stable depuis, il n'y a pas de travail.
Là, il y a un autre problème, effectivement, qui greffe à ça, c'est les propriétaires de tous ces clubs. Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires sont étrangers. Et c'est certain que, oui, ils sont... alors, pour le coup, le propriétaire de l'OM est étranger, il est américain. Mais lui, il semble s'être installé sur la durée et il fait confiance à son staff pour faire du mieux possible. Mais tous ces propriétaires étrangers n'ont pas toujours... le fait qu'ils soient étrangers ne sont pas aussi reliés avec leur région, avec leur ville, avec leur stade, avec leur public que peuvent l'être des Gervais Martel à l'époque de Lens... où évidemment Bernard Tapie à la très grande époque de l'OM.
Ou du Loulou Nicolin à
Montpellier. Ou du Loulou Nicolin, bien sûr, qui a été un président formidable. Voilà, où son fils a beaucoup de mal Voilà, à reprendre l'héritage.
Oui, effectivement. Et pour terminer sur Monaco, on le disait, cette défaite face au Paris FC, le promu Paris FC, qui, avec ses nombreuses recrues, bien évidemment, là aussi, hein, Paris qui a, le bien Paris sûr. FC qui a mis les moyens pour performer en Ligue 1. Qui se retrouve pour le moment à la 11e place, mais qui performe. Voilà, une victoire face à Monaco, ce n'est pas rien pour le Paris FC.
C'est même très important. C'est plutôt une bonne saison. Alors, faut qu'il continue à travailler, hein, parce que ça peut très vite tourner vinaigre si effectivement ils venaient à se relâcher, pensant que ce bon début de saison leur suffira. Hein, il va falloir qu'ils continuent à engranger des points. Gagner évidemment contre Monaco, c'est forcément une très bonne opération. Et comptable et moral aussi. Donc voilà, Monaco, bon, on va voir en Coupe d'Europe, là, je crois, Bodo Glimt,
justement, le petit calendrier des matchs.
Là aussi, ça va être très important pour eux de gagner ce match, voilà, pour la suite de la saison. C'est une lapalissade que de le dire, mais il y a des petits moments comme ça, quand même, où il va falloir savoir engranger les points.
Donc mercredi, on suivra Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Bodo Glimt, Monaco. Jeudi, Marseille, Atalanta, Bergame, c'est toujours la Ligue des Champions. Bon. En Europa League, trois rencontres, là aussi.
Je crois qu'il y a un Liverpool-Real Madrid aussi, mercredi matin.
Donc, il va falloir avoir de très, très belles rencontres, encore une fois.
Avoir un strabisme mercredi matin pour regarder deux matchs en même temps.
Un Bayern en très grande forme. Hein.
En très grande forme.
9 matchs, 9 victoires.
Hein. D'abord, le Bayern reste le Bayern, quoi qu'il arrive, année après année. Voilà, c'est un peu le Real de Madrid, hein, avec un palmarès un petit peu moins fourni, en tous les cas, pour la Champions League. Mais c'est des clubs qui sont tellement structurés, qui savent tellement, tellement bien faire, hein, que voilà, année après année, et puis ils ont un avant-centre, Harry Kane, l'anglais,
qui marque du survu.
Ils ont le français, Michael Olise, qui autant rencontre des petites difficultés avec l'équipe de France, fait un bon match, un match un peu moins bon. C'est jamais facile de briller avec son équipe nationale, mais par contre, au Bayern, il est juste exceptionnel, quoi.
On suivra toutes ces rencontres dans la semaine avec, je le disais, d'autres matchs français. En Coupe d'Europe, Nice-Fribourg, Étoile Rouge de Belgrade, Lille, Bétis-Lyon et Aken contre Strasbourg. C'est en Europa Conference League. Avant de terminer cette émission, je l'avais dit, on parlera un peu de marathon, mais je vais juste m'exprimer quelques secondes pour féliciter le Français qui a performé. C'était ce week-end à New York. Il a réalisé les 7 marathons majeurs sur la même année en moins de 2h30. Voilà, un petit mot pour ce Dorian Louvet qui a réussi. C'est mon coup de cœur avant de passer à vos coups de cœur ou vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Pierre Forest.
Ben moi, je vais rester dans le rugby. Je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé le week-end dernier. C'est Julien Cotereux, originaire de l'île des Pins, qui a fait ses classes à l'Olympique de Nouméa et qui est parti à Agen dans le cadre d'un partenariat entre le club de Nouméa et le CIO Agenais, et qui a fait ses grands débuts en Pro D2 le week-end d'avant contre Valence Roman comme pilier gauche à 21 ans. Donc on espère qu'il fait pas partie des effectifs pro. En tous les cas, il y a 15 jours, donc on espère que...
Le début d'une longue série.
C'est le début d'une longue série, il a l'air de s'y plaire en tous les cas, voilà.
Très bien. Éric Figuère.
Je vais essayer de faire vite pour laisser la place à Bruno, parce que j'ai deux choses à dire. D'abord, une énorme pensée pour Thierry Sardot, coach Thierry, qui nous a quittés malheureusement. Je l'ai bien connu, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que ça me touche. C'était vraiment un gars formidable, et surtout un technicien de très bon niveau, qui a marqué la Calédonie, qui s'est fait aimer dans tous les clubs où il est passé. Et sa chapeau, et donc une grosse pensée pour lui et sa famille. Et puis c'était la fin d'une carrière pour Nicolas Mahut. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Après 25 ans de carrière, 43 ans, il a gagné, rappelons-le quand même, et je pense que le double est souvent sous-évalué, sous-coté, pas assez mis en lumière. Il a gagné les 4 tournois du Grand Chelem en double, la Coupe Davis. Voilà, et donc c'est un très grand monsieur du tennis français qui prend sa retraite.
À Paris. Chez lui, avec Grégoire Dimitrov.
C'était formidable, très émouvant. Et donc, voilà, c'est mon coup de cœur.
Merci. On va terminer avec vous, Bruno Salvé.
Oui, un coup de cœur pour Rodrigue, j'en ai parlé. Rodrigue Netti, qui est rappelé en équipe de France pour préparer le match contre l'Afrique du Sud. Voilà, on lui souhaite le meilleur. Et voilà, Rodrigue, calédonien, donc formé à l'URCD, rugby club de Dumbéa, et qui joue depuis de nombreuses années au Stade Toulousain.
Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.
Merci à vous, bonne soirée.
D'avoir participé à cette émission. C'est la fin d'une semaine formidable.